Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard mais également Marguerite Caton, Mélanie Chalandon, Maëlys André, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jean-Guilain Meige. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du Monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va parler du Venezuela. Mercredi soir, à l'issue de nouvelles manifestations contre Nicolas Maduro, le président du Parlement, Juan Guaido, s'est autoproclamé nouveau président du Venezuela par intérim devant une foule de plusieurs milliers de partisans rassemblés à Caracas. Dans la foulée, ou presque, Donald Trump a apporté son soutien à Guaido en le reconnaissant officiellement. D'autres pays l'ont suivi, alors que l'Union européenne s'est contentée d'appeler au calme et à l'organisation de nouvelles élections libres et crédibles. Mais quelques heures plus tard, c'est la Russie qui a dénoncé ce qu'elle voit comme une ingérence étrangère et d'autres pays se sont ralliés à cette cause chaviste. Alors que va-t-il se passer désormais au Venezuela ? L'armée va-t-elle se retourner contre un régime qu'elle avait soutenu jusque-là ? Comment comprendre qu'un quasi-inconnu de la scène politique nationale parvienne à réaliser ce coup de force ? Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Nicolas Maduro a perdu le pouvoir et que donc le chavisme est mort? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord Paula Vasquez, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chargée de recherche au CNRS. Vous avez écrit notamment le chavisme, un militarisme compassionnel. À vos côtés, François-Xavier Frolland, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, journaliste indépendant, ancien correspondant pour RFI et TV5 au Venezuela. Vous aviez, vous, écrit « Qui veut la peau d'Hugo Chavez ?». Mais avant d'évoquer ce Venezuela, place à notre retour d'eux, en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient du Yémen.
La situation, c'est au jour le jour. C'est très dur. Il n'y a plus personne. Comme vous le voyez, les routes sont désertes à cause de la guerre. La vie a disparu ici.
Le cessez-le-feu, c'est juste pour la télé. Les missiles de la coalition continuent de tomber sur nos civils. Ils n'ont jamais stoppé leurs attaques. Pas une minute.
Bonjour Amar Alamidawi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste reporter pour France 24. Vous revenez tout juste du Yémen. Vous étiez avec votre collègue Cyril Payen. Vous êtes rendu à Aden, ainsi que dans la capitale Sanaa, mais aussi dans le gouvernorat de Saada au nord du pays, et puis dans la ville d'Odeida, où les combats se poursuivent entre les rebelles et les forces loyalistes soutenues par l'Arabie Saoudite. Vous êtes parvenu à vous rendre donc au cœur des bastions houthis. Alors je rappelle quand même quelques mots pour les auditeurs. Le conflit avait éclaté au printemps 2015 avec d'un côté donc les forces pro-gouvernementales soutenues par une coalition armée à la tête de laquelle se trouve l'Arabie Saoudite et puis de l'autre côté des rebelles houthis soutenus eux par l'Iran. Il se trouve qu'en décembre dernier, il y a eu un cessez-le-feu qui a été trouvé sous l'égide des Nations Unies mais qu'en fait sur le terrain, les combats continuent. On va en parler. D'abord, commençons peut-être avec les conditions de votre travail, de votre tournage parce que il est assez rare, évidemment, d'avoir des journalistes qui se rendent au Yémen. Pour tout vous dire, nous, ça fait des mois qu'on attend ça, pour des raisons évidemment de sécurité, mais aussi parce que les conditions de circulation à l'intérieur du pays sont extrêmement difficiles. Comment ça s'est passé pour vous? Quelles ont été les difficultés pour vous rendre sur place et pour circuler dans le pays?
Alors, la première difficulté, c'est d'avoir les visas. Et les visas, il faut les obtenir ici, à l'ambassade du Yémen, qui est à Paris. Mais une fois vous avez le visa, il faut avoir l'accréditation pour rentrer à l'aéroport de Aden, qui est il a double visage, l'aéroport de Aden. Il est officiellement c'est les Yéménites qui gèrent leur aéroport, mais en vrai c'est les Émiratis qui gèrent cet aéroport. Et donc les Émiratis et la coalition ne veut pas des journalistes occidentaux de rentrer dans ce pays. Donc il fallait trouver des Yéménites qui nous font rentrer d'une manière entre guillemets légale pour échapper au contrôle de la coalition. Et c'est ce qui se passe. Il y a eu New York Times qui ont réussi à faire ça. Et nous, la première télé depuis très longtemps, après la décision de la coalition d'empêcher la presse internationale de rentrer dans ce pays. Donc on a réussi à rentrer. Et après, on a fait la route jusqu'à le nord, contrôlé par les Houthis. Et là, c'est une autre histoire. Les Houthis qui veulent contrôler déjà leur image. Donc, il y a plein de conditions qui pour encadrer les journalistes occidentaux. Il y avait toujours un guide, et un représentant du ministère de l'Information qui surveille tout.
Et qui vous disait ce que vous pouviez faire et pas faire. Mais ça, on va y revenir. Vous étiez donc dans ces bastions historiques des Houthis à Saada. Il y a quelques semaines, je le disais dans mon introduction, il y a une trêve qui a été conclue sous l'égide des Nations Unies. C'était en décembre dernier, mi-décembre, 18 décembre, je crois.
Ouais.
Mais sur place, ce que vous avez constaté, c'est qu'en réalité, elle est absolument pas respectée, cette trêve.
Il y a beaucoup, il y a beaucoup de difficultés parce que les deux parties ne sont pas vraiment prêts à faire des un pas vers l'autre. Et ils insistent sur leur position, ils campent sur leur position. Les Houthis, ils disent qu'ils ont appliqué les accords de Stockholm en sortant, par exemple, parlant de Hodeïda, qui est l'une des villes au cœur de conflit. Il y a le port qui est très stratégiquement important. Les Houthis, c'est le seul point par lequel ils peuvent être en contact avec le monde extérieur à cause de la blocus que l'Arabie Saoudite et les Émirats imposent sur cette région. Eux, ils ont dit qu'ils ont quitté le port aux polices de la frontière, qui est une police qui est normalement indépendante, sauf que l'autre côté les accuse de mettre des Houthis avec l'uniforme des... Donc sur place, on a réussi à accéder à ce port avec beaucoup de difficultés, mais on y rentrait. Mais les personnes qu'on a rencontrées sur place, ils se sont présentés ainsi, c'est-à-dire ce ne sont pas des Houthis, mais on a du mal à croire cette version.
On va parler évidemment de ce port, mais d'abord restons dans ce fief Houthi. Vous êtes allé dans l'hôpital de Saada, vous avez pu accéder à l'unité pédiatrique, vous avez pu filmer le désastre humanitaire en cours sur les corps de ces très très jeunes enfants. En revanche, vous n'avez pas pu vous rendre dans les services où sont accueillis les combattants Houthis. Pour quelle raison? Parce que les combattants, c'est pas bon pour l'image des Houthis qui veulent se construire l'image quasiment exclusivement de victimes. Et est-ce qu'au fond, il faut comprendre qu'il y a un effort de quasiment de propagande du côté Houthi?
Malheureusement, oui. Ouais. Malheureusement, ils veulent aussi utiliser la propagande pour avoir de l'aide internationale, parce que c'est leur souci premier, c'est d'avoir vraiment un soutien international et montrer que les autres, et surtout l'Arabie Saoudite, parce que eux, ils sont soutenus par l'Iran, que l'Arabie Saoudite est en train de tuer les enfants yéménites, et cette image, ils veulent en tirer profit, et on a vu ça. Et quand on a demandé, oui, mais cet hôpital, c'est le seul ouvert dans le nord, surtout dans cette région, qui est le fief de la rébellion Houthi, est-ce qu'on peut avoir les blessés de la guerre? Parce qu'il y a toujours des bombardements, ça a été interdit. Le prétexte qu'ils nous ont donné, c'est que avant, il y a des journalistes occidentaux qui sont venus faire un reportage sur un hôpital, et cet hôpital a été bombardé suite à ce reportage, et ils veulent pas indiquer que dans cet hôpital aussi il y a des soldats blessés. C'est ce qu'ils nous ont dit, mais en vrai, en fait, ils voulaient juste qu'on fasse leur programme à eux.
Mais cette propagande, est-ce que c'est seulement le fruit des Houthis eux-mêmes sur place, ou est-ce que c'est plus que ça? Est-ce qu'il y a le désir, et notamment de forces extérieures, de participer à cette propagande? Je vais vous dire pourquoi je pose cette question, parce qu'à un moment dans l'un de vos reportages, on voit une très très grande affiche sur laquelle on voit un enfant meurtri, et alors, moi je ne parle pas arabe, mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est un message qui dit en gros, voilà ce que fait l'Arabie Saoudite sur les enfants yéménites. Donc ça, il faut le payer, il faut un peu d'organisation pour mettre en place ce genre de bataille informationnelle.
Là, on voit en fait le modèle et l'influence iranien. Ils veulent faire aussi comme la communication de Hezbollah. Je pense que ceux qui sont allés déjà au Liban, ils savent comment communique le Hezbollah. Mais le problème dans cette L'histoire de la guerre au Yémen, c'est que ces enfants et ces souffrances existent. C'est-à-dire, c'est la question qu'on s'est posée avec Cyril Payen tout au long de cette couverture. Parce que malheureusement, c'est-à-dire, il y a ceux qui tiennent le pouvoir de deux côtés. Hein. Il y a 8 mois, on était de l'autre côté, chez les sudistes. Et là, c'est chez les nordistes. Et dans les deux situations, il y a des responsables qui vivent vraiment dans une société normale. Ils ont les marchés, ils ont les produits, ils peuvent acheter, ils peuvent manger, ils peuvent tout faire. Ils ont leurs hôpitaux à eux, mais la simple population yéménite, elle est livrée à elle-même. Et il y a beaucoup de souffrance dans la classe pauvre de Yémen. Il y a la classe moyenne s'est effacée. Il y a plus de classe moyenne. Il y a les très pauvres. Il y a les riches qui sont près de pouvoir. Et ça, on le voit tous les jours. Et d'ailleurs, dans les deux cas, les deux populations prises en otage, entre guillemets, dans cette guerre, ils nous ont dit, quand il y a un moment d'absence de ceux qui nous surveillent, les guides qui contrôlent même les personnes avec qui on parle, et ils nous disent en cachette qu'ils en ont marre, par exemple, des Houthis, qu'ils les représentent pas. Les Houthis, ils viennent de Saada, qui est une petite ville vers la frontière saoudienne, mais ils ont envahi toutes les villes du nord. Et ils imposent leur guerre à cette population démunie. Le Yémen, c'est pas un pays riche à la base, et cette guerre l'a encore appauvri et elle l'a mis vraiment à genoux. Les gens sur la route de Sanaa vers Hodeïda, il y a vraiment des familles entières qui m'ont dit sur les autoroutes, ils sont livrés à eux-mêmes, il n'y a pas d'infrastructure pour les déplacer, c'est des gens qui ont fui la guerre, ils se retrouvent au bord de l'autoroute et ils peuvent même pas avoir de quoi manger au jour le jour, et on voit sur tout au long de la route vraiment des familles entières qui se mettent sur les bords de la route. Dès qu'il y a un dodan ou un ralentissement, ils se jettent sur les voitures, ils disent on veut juste, même si vous avez un biscuit ou un truc comme ça, parce que vous êtes des voyageurs, donnez-nous à manger, on veut pas d'argent. Et c'est vraiment très très troublant et touchant de voir cette population qui est vraiment l'envers du décor de cette guerre. Parce que quand on arrive à Sanaa, c'est une ville normale. Les marchés sont normaux. Les gens, ils achètent, ils mangent, il y a de tout. Mais dès qu'on sort de la ville, c'est vraiment catastrophique la situation de la population.
Amar Alamidaoui, vous êtes rendu donc à Hodeïda, qui est la ville de la côte ouest, qui donne sur la mer Rouge. C'est une ville fortifiée, qui est traversée justement par la ligne de front. C'est une zone hautement stratégique, vous le disiez, parce qu'il y a là un port, et qui est le port principal d'approvisionnement du pays. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe sur ce port. Vous nous disiez tout à l'heure que c'était les Houthis qui en avaient aujourd'hui le contrôle. Pourtant, dans les accords de Stockholm de décembre dernier, il était prévu justement qu'ils s'en retirent. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là, et est-ce qu'ils comptent un moment se retirer comme les accords le prévoient?
Alors, stratégiquement, ils n'ont pas intérêt de se retirer parce que c'est le seul endroit par lequel ils peuvent communiquer avec le monde extérieur. Et c'est par là aussi, il y a 70% de l'aide humanitaire rentre dans leur région. Donc, c'est pour eux, c'est une question de vie ou de mort.
Donc, il y a encore de l'activité sur ce port.
Oui, mais c'est masqué. Ils veulent aussi montrer qu'ils sont capables à négocier. Ils ont aussi une stratégie d'aller sur les tables de négociation et imposer ce qu'ils veulent, tout en faisant que semblant d'exécuter les accords au final, mais vraiment sur le terrain, ils sont très très puissants. Rien que
aucune chance que les forces loyalistes reprennent le port d'Hodeïda, par exemple.
Non.
Aucune chance.
Non, parce que rien que pour la route qui mène vers l'aéroport, le port, il y a plus de 150 checkpoints. C'est juste hallucinant de voir comment ils maîtrisent cette ville, et ça se voit que ils mettent beaucoup de leur poids militaire qui le dissimulent bien, parce que les Saoudiens, ils pilonnent tout le temps cette zone. Et d'ailleurs, ce matin, il y a eu des accrochages, il y a eu vraiment des bombardements et les deux côtés. Pardon, excusez-moi. Les deux côtés se jettent
la responsabilité. Mais vous dites qu'ils sont prêts à aller, les Houthis, à la table des négociations. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut espérer, enfin, un accord de paix?
Alors,
est-ce qu'on y est prêt? Et est-ce que, évidemment, les pays qui se livrent une guerre par procuration au Yémen, à savoir l'Arabie Saoudite d'un côté et l'Iran de l'autre, ils sont disposés?
Alors, ce qu'on a pu constater en parlant avec la population et avec certains responsables, c'est que, on va à la négociation, mais par contre, on n'est pas prêt à céder à l'autre de ce qu'on a obtenu. Les deux côtés se autoproclament les représentants du peuple yéménite. Et cette guerre, si l'un des deux cède à l'autre, c'est sa fin aussi. Et comme les deux, ils sont vraiment pas arrivés par une voie démocratique et des élections et tout ce qu'on sait d'un pays normalement politiquement constitué, s'ils se retirent, c'est la fin de leur existence aussi. Et je pense que les deux côtés ne veulent pas en finir de cette façon.
Et compte tenu de cette position, est-ce qu'on peut imaginer quand même un accord politique? C'est-à-dire, pourquoi pas un partage du pays en deux, puisque vous dites qu'en gros, c'est ça qui se passe et que le rapport de force fait qu'aujourd'hui, les choses ne bougent plus. Est-ce que politiquement, ça pourrait se traduire et on pourrait avoir demain, évidemment, ça va mettre énormément de temps, mais un Yémen avec, au fond, deux régions, peut-être même deux fédérations, enfin, une fédération, pardon, avec deux régions autonomes, enfin, quelque chose dans ce modèle-là, c'est possible?
Par le passé, ça a été le cas. Dans les années 80, il y avait deux pays, Yémen du Sud, Yémen du Nord. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'Arabie Saoudite, c'est aussi l'Iran. C'est plus l'histoire du Yéménite entre eux. Il y a beaucoup de forces, beaucoup d'ingérence, et le Yémen est devenu aussi, c'est le lieu de guerre par procuration entre ces deux pays de la région, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc les Yéménites du Sud, ils sont vraiment prêts, ils ont tout pour être un pays, et le Nord aussi. Mais je pense pas que les conflits régionaux les laisseront faire.
Il y a un troisième pays qu'on a oublié, dont on n'a pas encore parlé, c'est la Russie. Jusqu'ici, la Russie était relativement en retrait dans ce conflit. Il se trouve que là, il y a quelques signes qui nous montrent que peut-être que la Russie a envie de s'engager plus directement. Il y a en tout cas, la semaine dernière, l'ambassadeur russe aux Nations Unies qui a dit qu'il soutenait officiellement, il les soutient depuis le début, mais qu'il soutenait vraiment les Houthis, et que même il les soutenait dans une démarche de négociation et de pourparlers. Est-ce que là, on a un changement avec l'arrivée comme ça, plus clair dans le jeu diplomatique qui se joue autour de cette crise yéménite?
Eux, ils avaient l'impression que ça était le cas dès le début. Leurs armes qui arrivent, on ne sait pas d'où, personne ne peut contrôler l'arrivée des armes aux Houthis. Ça fait 4 ans quand même qu'ils résistent à la coalition menée par l'Arabie Saoudite avec leurs propres moyens. Et ils avaient toujours l'impression que la Russie était là à travers l'Iran. Donc aujourd'hui, peut-être il y a des déclarations politiques qui donnent l'impression que c'est presque reconnu entre deux guillemets, mais ils n'ont jamais été absents. C'est une histoire de cette région du Moyen-Orient. Il y a toujours ce partage entre ces forces qui ont des alliés dans ces zones-là. Oui.
Merci beaucoup, Amar Alhamidaoui, d'avoir été avec nous ce matin, d'être passé dans nos studios. Je rappelle que vous êtes journaliste reporter pour France 24 et qu'on peut revoir vos reportages sur le site de France 24. Merci infiniment.
Avec Cyril Payen.
Avec Cyril Payen, merci beaucoup.
أنا والحبيب هي وقفة
Allez, on va quitter le Yémen, direction le Venezuela.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et cette semaine, la crise vénézuélienne est entrée dans une nouvelle phase avec un opposant à Nicolas Maduro qui s'est autoproclamé président du pays.
Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela.
Voilà, devant une foule d'opposants à Maduro, Juan Guaido a déclaré qu'il assumait désormais la charge de chef d'État par intérim. Immédiatement, Donald Trump lui a apporté son soutien, cherchant par là à entériner la chute de Nicolas Maduro, lui-même soutenu quelques heures plus tard par le régime russe, qui a dénoncé ce qu'il considère comme une ingérence étrangère. On va essayer de comprendre ce qu'il se passe au Venezuela. Nicolas Maduro a-t-il perdu le pouvoir? Quels sont ses soutiens à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur? Est-ce qu'ils lui permettront d'éviter la fin du chavisme? Paula Vasquez et François-Xavier Froland sont nos invités. Marc Semo, notre partenaire du Monde, comme chaque vendredi. Je commence avec vous, Marc. Ça fait des années que le Venezuela s'enfonce dans la crise, qu'on en parle très régulièrement, Marc, avec une crise sociale et économique sans précédent, mais aussi bien sûr politique. Maduro, rappelons-le, est arrivé au pouvoir à la mort de Hugo Chavez. Il avait été réélu l'année dernière lors d'élections contestées par l'opposition et son entrée en fonction officielle au début du mois pour un deuxième mandat a relancé ces mouvements de contestation, à tel point d'ailleurs que le président du Parlement, on l'a entendu, a donc profité d'une nouvelle manifestation pour s'autoproclamer président par intérim. Mais ce qu'on voit, c'est que au-delà des enjeux internes qu'on va évidemment évoquer aujourd'hui, ce coup de force politique, il a immédiatement enclenché un cycle de réaction internationale des pays étrangers et que ce qui apparaît quand même au départ comme au fond une crise intérieure, une crise nationale, s'est immédiatement transformé en une question internationale, Marc.
C'est une question internationale et sans plus la première crise qui surgit dans l'arrière-cour de l'Amérique trumpienne, et c'est donc aussi pour l'imprévisible et très impulsif président américain un moment de vérité. Alors, dans un tweet qui saluait le courage des manifestants défiant Nicolas Maduro, le président français Emmanuel Macron avait d'ailleurs clairement rappelé le caractère illégitime du scrutin de mai de 2018 qui avait porté le successeur d'Hugo Chavez pour un deuxième mandat. Et de fait, 60 pays, toute l'Union européenne, la plupart des démocraties, avaient boycotté la prestation de serment. Alors toute la question, c'est de savoir s'il fallait, comme Donald Trump, suivi par le Canada et la plupart des pays sud-américains, reconnaître l'opposant Juan Guaido comme président par intérim. Alors les 28 sont restés très prudents. De fait, Paris et Madrid, au nom des Européens, s'activent pour essayer de trouver un compromis pour permettre un processus électoral libre et crédible. C'est une voie étroite, difficile, mais c'est probablement la seule possible pour éviter que le printemps de Caracas, comme on l'appelle déjà, ne se transforme en un bain de sang. Et, comme tu le disais au début, le bras de fer qui s'engage va bien au-delà du sort du Venezuela.
Paula Vasquez, on va commencer avec vous. Je vais vous faire réagir librement sur ce qui est en train de se passer au Venezuela, mais je vais aussi tout de suite engager une question, qui est celle que j'évoquais tout de suite avec Marc, c'est que est-ce que cette internationalisation de la crise vénézuélienne telle qu'on la voit aujourd'hui, est-ce qu'elle risque pas de totalement bloquer le conflit aujourd'hui?
Non, je pense pas. Justement, c'est tout au contraire. C'est là où les Vénézuéliens centrent l'espoir pour empêcher qu'il y ait une fracture dans les forces armées qui puisse amener donc à une guerre civile. On compte surtout sur la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'elle a été cruciale pour dire que l'élection de Maduro en 2018, en mai, elle est illégitime. Car là, on est en face des deux élections. Celle de 2015 qui est légitime, de la majorité d'opposition à l'Assemblée nationale, et une qui est illégitime en 2018. Donc, ça tombe pas du ciel non plus les choix de Guaido de faire valoir l'article de la Constitution qui prévoit une situation pas comme celle-là, car aucune constitution au monde prévoit qu'il y ait une usurpation du pouvoir par une élection illégitime. C'est pas ça. C'est que la constitution prévoit donc qu'il y a un vide de la part du président. Donc il fallait attendre que Maduro fasse la passation de pouvoir pour le déclarer illégitime. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a un tel décalage dans les temps. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, ils ont essayé de jouer avec les temps en avançant l'élection, les scrutins en mai, et finalement, par un retour, une question pendulaire, ils se trouvent dans une position d'illégitimité. Donc, mais la question, pour revenir à la question internationale, elle est cruciale dans la mesure où elle rappelle, c'est une question de cohérence aussi. Mmh. Si vous avez déclaré que cette élection-là n'était pas légitime, donc maintenant, il faut assumer la responsabilité de ne pas avoir reconnu Maduro en mai 2018.
Sauf que, François-Xavier Frelon, il y a effectivement un certain nombre de pays qui n'ont pas reconnu cette élection et qui n'ont pas reconnu Maduro de fait, mais sauf qu'il y a aussi des pays qui le reconnaissent comme le président. Je parlais tout à l'heure de la Russie, mais c'est aussi le cas de la Chine, c'est aussi le cas de la Turquie, c'est le cas de Cuba, c'est le cas du Mexique, c'est le cas de la Bolivie. C'est d'ailleurs très étonnant, quand on regarde aujourd'hui la fiche Wikipédia de l'autoproclamé Guaido, il y a une carte du monde avec en bleu ceux qui reconnaissent Maduro, en rouge ceux qui reconnaissent Guaido ou l'inverse, je sais plus, peu importe les couleurs, mais on voit qu'il y a là deux blocs en réalité qui s'affrontent. Et donc je repose la même question que je posais tout à l'heure à Paula Vasquez, est-ce que ça risque pas de bloquer totalement le conflit politique au Venezuela?
Parmi les pays que vous avez cités, les trois quarts ne sont pas des démocraties modèles déjà. On les connaît, ce sont des régimes forts, souvent autoritaires,
Sauf qu'ils sont là et qu'ils représentent un poids politique et que l'affrontement est là.
Alors, évidemment, on est dans un retour un petit peu, une sorte de guerre froide, version 21e siècle. Il est clair que le Venezuela a quand même toujours eu des rapports assez proches avec les États-Unis et que c'est un petit peu, il est vrai, on peut le dénoncer, on peut le regretter, un petit peu comme parfois, effectivement, en Afrique, vous avez des pays qui vont se tourner vers la France au moment où ils se trouvent face à des dictateurs ou à des régimes totalement autoritaires qui vissent la démocratie. C'est un petit peu le cas du Venezuela, sachant qu'effectivement, ils sont passés par toutes les possibilités démocratiques, je parle de l'opposition, pour faire entendre leur voix, et que finalement, elle n'a été ou jamais entendu, ou boycotté, ou voire même méprisé. C'est le cas aujourd'hui, ma consoeur vient de le dire, de manière très claire, notamment avec le boycott du Parlement, qui avait été élu en 2015, avec une forte majorité de députés de l'opposition, et qui aujourd'hui n'existe plus, ou carrément plus, n'est pas respecté par le président Maduro, qui l'a contourné en créant une consultante, une assemblée qui lui est totalement acquise, etc. Donc, pour revenir à votre question, il est clair que certains tirent aussi leur épingle du jeu. Le Venezuela, tout le monde sait que c'est un pays riche en ressources, il y a énormément de pétrole, il y a de l'or, etc. Donc certains ne sont pas totalement naïfs sur cette question-là, ils espèrent un jour ou l'autre peut-être récupérer eh bien, l'autorité sur un pays qui a des possibilités. Ouais.
Paula Vasquez, Marc Zemmour et Paula Vasquez.
Alors, ce qui est frappant, c'est que les lignes de fracture, si on regarde, ces deux blocs, sont plus ou moins les mêmes que sur la Syrie d'ailleurs. Où on retrouve d'un côté les pays les régimes autoritaires, etc. Surtout au nom du fait, voilà, pas d'ingérence, pas d'imposition de la démocratie de l'extérieur. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces blocs ne sont pas aussi totalement homogènes. Et par exemple, la médiation qui est en train de se dérouler maintenant, pour essayer de sortir de l'impasse, elle met quoi? D'un côté, des Européens, notamment la France et l'Espagne, qui sont les deux pays les plus actifs, et de l'autre, le Mexique, qui est un pays de gauche.
Mexique et l'Uruguay.
Qui est un pays de gauche. Donc qui fait partie de ceux qui ont été assez soft vis-à-vis de Maduro, mais qui en même temps essayent maintenant de trouver une issue à la crise. Donc paradoxalement, c'est aussi la seule chance, je pense, de débloquer la chose.
Vous y croyez à cette médiation, Paula Vasquez ?
En fait, oui. En fait, tout ce qui amènerait à un dialogue, c'est l'une des choses qu'il faut reconnaître à Guaido, sa capacité de parler à des secteurs qui ne se parlent pas au Venezuela. Donc, c'est pour ça que la question de la loi d'amnistie, elle est une manière de favoriser un dialogue. La loi d'amnistie aux militaires qui ont été jusque-là inconditionnels au régime de Maduro et avant du chavisme. Ça, par exemple, c'est un geste extrêmement intéressant qui peut conduire justement à qu'on puisse parler avec les militaires qui en ce moment sont les soutiens principaux du gouvernement de Maduro. Et l'autre chose intéressante, c'est par rapport aux États-Unis. Je dis il y a trois jours, et je le maintiens, je pense que cette déclaration de Pence, c'est un peu une gesticulation de quelque chose qu'on savait tous, en fait. C'est quelque chose, c'est la déclaration de Marco Rubio qui a été intéressante dans les républicains de la Floride, que c'était comme si il savait que l'armée n'allait pas réprimer. Et là, on s'est dit, il y a des choses qui se passent, il y a des informations qui circulent. Et ces relations diplomatiques avec les États-Unis, ça relève surtout d'une forte interdépendance entre les deux pays. C'est pas une relation, il n'y a pas un passé colonial en tant que tel. Le Venezuela est un pays fondateur de l'OPEP, ils ont nationalisé leur industrie pétrolière. Donc, c'est plutôt une interdépendance parce que c'est le troisième exportateur de pétrole aux États-Unis. Et parce que, pourquoi pourquoi, s'il y a un embargo comme les États-Unis menacent, comme l'effet Trump à l'économie pétrolière vénézuélienne, l'impact sur l'économie nord-américaine, il est énorme. Mmh. Pourquoi? Parce qu'il y a des raffineries des capitales vénézuéliennes qui fonctionnent et parce que le fait de pas avoir du pétrole vénézuélien aux États-Unis, c'est un impact important pour l'économie américaine. Donc, il faut nuancer et je pense pas que ça soit l'acteur prépondérant comme on le voit dans les médias français dans cette crise, les États-Unis.
On va revenir sur cette question du pétrole, mais je vais vous demander juste de la laisser un tout petit peu de côté parce qu'on va y revenir, c'est prévu, François-Xavier Frelon, mais je voudrais revenir sur une chose qu'a dit Paula Vasquez. Elle fait mention de, elle parle de Mike Pence, qui est donc le vice-président américain, qui la veille de cette manifestation, a assuré l'opposition de son soutien indéfectible, je le cite. Je vais me faire l'avocat de Maduro qui a dénoncé, alors il le fait souvent, mais qui a dénoncé encore l'ingérence américaine. Il a dit que c'était un coup d'État piloté par Washington. Mais si on regarde un peu les choses, effectivement, quelques minutes après la déclaration de Guaido, il y a immédiatement ce soutien de Donald Trump. La veille, l'administration américaine encourage les manifestants à descendre dans la rue. Contre le régime. Au regard du déroulé un peu de ce coup de force politique, on se dit qu'il n'est pas totalement exclu, François-Xavier Frelon, que Washington ait effectivement eu un rôle. Est-ce qu'on est là dans du complotisme total ou est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement Juan Guaido a eu l'assentiment de l'administration américaine, tout simplement?
Oui. Honnêtement, je trouve que c'est un scénario écrit. Donc voilà, vous voyez, je peux être totalement critique sur le déroulé des événements. Je pense qu'effectivement, Guaido a des liens très forts avec les États-Unis. Maintenant, j'ai envie de dire, au regard de l'histoire, ce ne sera pas la première fois que un nouveau chef d'État. Allez, je vais oser. En France, c'est toujours un pavé dans la mare. Le général de Gaulle, il a été l'allié des États-Unis, il a été l'allié de l'Angleterre pour renverser Pétain. Et ça n'a gêné personne. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un héros. Aujourd'hui, d'ailleurs, mon film s'appelle Les Résistants. J'invite les auditeurs à aller le regarder. Il s'appelle Les Résistants, le combat des exilés vénézuéliens.
Qui était diffusé sur Public Sénat, qu'on va voir.
Je ne sais pas pourquoi ces pauvres Vénézuéliens, qui aujourd'hui sont des millions dans la rue, quand il y a des milliers de gilets jaunes dans la rue à Paris, monsieur ou certains représentants de partis politiques parlent de révolution, de révolte, d'insurrection. Tout ça est formidable, il faut remplacer le président. On a même appelé à renverser Macron. Je ne fais pas, je ne défends pas monsieur Macron et je ne suis pas anti-gilets jaunes. Je me permets juste cette petite parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, vous avez en face d'un homme qui a vissé le pouvoir, qui est monsieur Maduro. Tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, c'est un néo-dictateur. Il a en face de lui une foule, je ne sais pas si vous avez vu les images à la télévision, extrêmement importante. C'est des milliers, voire peut-être un million de gens dans les rues de Caracas et partout dans le pays, contre quelques gens qui défendent son pouvoir. On appelle ça un coup d'État. Vous voyez, il y a vraiment deux poids, deux mesures dans le vocabulaire et c'est toujours comme ça. S'il y avait eu un Pinochet à la place de monsieur Maduro, on aurait parlé d'une révolution.
Oui, mais on va vous répondre. Et l'ambassadeur vénézuélien en France disait sur France Info ce matin que Maduro avait eu 6 millions de voix. Alors on peut remettre évidemment en cause les chiffres et l'élection elle-même,
et que Guaido,
lui, n'est que député, qu'il a obtenu 92 000 voix, et que donc sa légitimité est toute relative.
Je crois qu'effectivement, il y a eu un scénario écrit, et que M. Guaido a trouvé des appuis, des soutiens.
Je pense qu'il est en train de s'écrire au fur et à mesure, parce qu'on ne pouvait pas prévoir que Guaido allait pouvoir mobiliser les cabildos abiertos comme il l'a fait. Et ça, je suis désolée, mais les États-Unis n'ont pas un pouvoir de convocation dans tous les pays qui s'est mobilisé dans ces sortes de grands débats nationaux, car c'est pas une foule désorganisée, c'est une foule qui s'est constituée à partir d'une série d'organisations de base, parce que Guaido, c'est un opérateur politique. Ce n'est pas un pantin tombé du ciel. On le voit dans sa capacité de mobiliser son électorat d'origine. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'il devait avoir la garantie que quelque chose allait les protéger. En l'occurrence, malheureusement, c'est les États-Unis. Pourquoi il avait besoin d'une protection? Parce que si on voit la situation de Leopoldo López ou de Capriles, soit en prison, soit inhabilité, donc bien sûr qu'il avait besoin d'une certaine garantie pour que ça lui arrive pas, parce que lorsqu'il a pris la présidence de l'Assemblée nationale le 8 janvier, on s'est dit, il est en prison demain. Tous les Vénézuéliens se sont dit là. Il est en prison. Donc, comment éviter ça? Malheureusement, chercher des alliés.
Marc, c'est bon.
Justement, effectivement, on peut imaginer un scénario écrit, mais est-ce que ce n'était pas la seule solution? La crise dure depuis des années. Il y a 3 millions de Vénézuéliens dans les pays limitrophes. Une inflation d'un million.
Et 10
millions pour l'année prochaine.
Donc, à un moment ou un autre, il faut effectivement trouver une issue à la crise. Mmh. Alors là-dessus, la question qu'on peut se poser, c'est la différence d'attitude entre d'un côté les Américains suivis par le Canada, la plupart des pays de centre-droit d'Amérique latine, et de l'autre les Européens, mais sur le fond, il y a convergence, c'est-à-dire il faut de nouvelles élections incontestables et que c'est exact. Le seul moyen de sortir de la crise. Le problème est que si ça rate, la tragédie est réelle. Mmh. Parce que Trump est là dans son arrière-cour et il ne peut pas faire comme au Moyen-Orient, se retirer. Là, il est obligé d'agir jusqu'au bout.
On va voir si ça peut marcher dans un instant. François-Xavier Frelon.
Et je crois qu'effectivement, les deux nouveaux présidents décriés par l'un ou l'autre camp dans la sous-région, que ce soit M. López Obrador au Mexique ou M. Bolsonaro au Brésil, pourraient peut-être effectivement être des acteurs clés dans cette médiation, sachant que ils auront l'un et l'autre forcément les soutiens d'un ou l'autre bloc et qu'ils seront eux enfin des latino-américains pour régler un problème latino-américain d'un pays voisin. Donc il me semble que, et en plus Monsieur Obrador a été, je trouve, tout à fait à l'aise et modéré. Il a condamné les opposants.
Président mexicain, hein.
Le président mexicain, il n'a pas signé la convention de Lima, vous savez, qui ne reconnaissait pas le pouvoir de M. Maduro, mais il ne s'est pas rendu à la prise de pouvoir de M. Maduro, ce qui est un symbole très fort, c'est-à-dire que, disons qu'il a donné qu'un demi-ticket à M. Maduro.
Il attend de voir ce qui se passe pour se positionner, en fait, c'est assez intéressant.
Paula Vasquez, pour revenir sur la question de Marcelo, est-ce que ça peut marcher?
Est-ce que
ça peut marcher?
En fait, l'une des choses intéressantes, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, il a surpris tout le monde, ces serments devant la manifestation du 23 janvier. Pourquoi? En fait, les analystes disaient, si on mise tout à nouveau sur une seule personne, justement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il est emprisonné? C'est ce qui s'est passé avec Leopoldo López, d'une certaine manière. Et si on mise sur... Donc, c'est cette question de miser tout sur quelqu'un qui posait beaucoup de problèmes. Mais en même temps, il a tout pour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un passif de ressentiment dans l'opposition vénézuélienne qui est extrêmement divisée et déchirée. Donc, c'est un jeune et son défaut, c'est sa vertu. C'est-à-dire, l'effet d'être un inconnu fait qu'il soit pas nécessairement tout de suite identifié à son parti, aux participations dans les coups d'État de 2002, que c'est un peu toujours les drames de l'opposition vénézuélienne. Donc,
il a plutôt un bon profil.
Il a plutôt un bon profil. D'accord, c'est une famille, une fratrie de 7 frères et sœurs qui vient de La Guaira, que c'est la zone populaire du port de Caracas. Et donc, il a parlé, il est cool, pour le dire pas d'une manière très académique. Donc ça fait un effet intéressant. Et surtout, c'est un opérateur politique. Et ça manquait un opérateur politique dans la scène vénézuélienne.
Ok, d'accord. Donc c'est la bonne personne. Très bien.
Je pense que oui.
Après, c'est pas le seul facteur qu'il y a. Il y a un autre facteur qui est très important qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la question de l'armée. Faisons l'hypothèse. Déjà, il faudrait la vérifier après, mais on va faire cette hypothèse que l'armée ne soutient plus effectivement Maduro et que effectivement le régime tombe et qu'on organise des élections effectivement. Est-ce que l'armée va effectivement laisser cette transition se jouer ou est-ce qu'elle va essayer de peser?
Mais là, et c'est intéressant parce que c'est 24 heures après cet événement que le ministre de la Défense, Padrino López, se manifeste. Parce que le 23, le soir, c'était un tweet de 3 mots. C'était quelque chose qui a laissé tout le monde assez surpris, car c'est quelqu'un de plutôt bavard dans les gouvernements. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'union civilo-militaire, c'est la base de la révolution bolivarienne et que les forces armées vénézuéliennes sont encore délibérants au sein du régime politique. C'est-à-dire, ils ont une parole. C'est pas, de ce point de vue-là, une démocratie très classique. C'est un système extrêmement militariste et militarisé. Donc, ces tweets des 3 mots. Il disait, on soutient Maduro. Bon, donc je pense que ça n'a pas été très rassurant, même pas pour Maduro. Et donc, ils ont parlé hier soir. Donc, on a passé au crible ces images. C'était l'état-major avec les uniformes des galas, avec toutes les décorations, avec Padrino qui commence avec un discours de psychanalyste. Franchement, ce gamin, il est un peu perturbé, il a des délires de grandeur. C'est pas un discours de force, c'est un discours de vieux papa qui veut essayer de comprendre les perturbations psychiques de Guaido. C'était extrêmement étonnant. Et surtout, aujourd'hui, on se réveille, entre guillemets, à Paris avec quoi? Avec le fait que Guaido n'est pas emprisonné. Donc, Guaido a fait quelque chose d'inconstitutionnel. Il a fait un coup d'État. C'est un perturbé, c'est un malade, mais il est libre.
Donc, ce que je comprends bien, c'est que vous voulez dire, d'une certaine manière, l'armée laisse faire.
Oui.
C'est ça.
L'armée laisse faire.
Elle fait le service minimum.
Elle fait le service minimum, surtout parce que Guaido a été déjà emprisonné après qu'il a dit que Maduro était un usurpateur, après la prise des pouvoirs de Maduro, de la passation de pouvoir pour lui-même. Et donc, il a été emprisonné par la police politique, que c'est les Sebin. Mais il a été emprisonné pendant 20 minutes dans une voiture. Et on l'a relâché après. Pour nous, Vénézuéliens, la nouvelle, c'était pas qu'on les mette en prison, c'était qu'on les libère. Donc déjà, on voyait qu'il n'y avait pas d'homogénéité dans ce qu'on appelle la chaîne de commandement.
Allez, place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. Le vendredi, on sélectionne un dessin en fonction de notre sujet du jour, on le diffuse sur les réseaux sociaux, c'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown !
Mais on a été créés pour faire rire les vents, mon vieux !
Assis !
Et aujourd'hui, c'est Marguerite Caton qui nous propose ce dessin. Bonjour Marguerite.
Bonjour Florian,
alors,
bonjour à tous.
Alors le dessin du jour, Marguerite ?
C'est un dessin mexicain. Vous savez, les événements du Venezuela n'ont pas échappé à l'œil critique des dessinateurs du continent. La position américaine, l'empressement de Donald Trump à reconnaître la légitimité de Juan Guaido, cela a excité les crayons et la suspicion des artistes. Surtout ceux de Rafael Pineda, râpé de son nom de plume, peu convaincu de la pureté des intentions américaines. Vous me direz qu'aujourd'hui, rares sont les Mexicains convaincus de l'altruisme de leurs voisins, mais c'est une autre question. En tout cas, c'est en vautour que Trump nous apparaît. Un vautour peu séduisant, dont la grosse tête blonde tranche avec les plumes noires des ailes déployées. Dans ses serres, l'oiseau tient une longue paille d'où s'écoule une goutte, noire, une goutte de pétrole. La paille est un pipeline, et c'est bien pour siphonner les réserves pétrolières vénézuéliennes que le vautour président fond à tire-d'aile sur le pays. L'argument est plausible. Sans être complotiste et sans aller jusqu'au Moyen-Orient, l'appétit des États-Unis en matière d'hydrocarbures, la détermination, l'engagement même dont ils ont toujours fait preuve pour assurer la sécurité de leurs approvisionnements, tout cela est bien connu. Et les réserves vénézuéliennes ont de quoi exciter les convoitises. Ce sont les premières du monde. Elles représentent 17,9% des réserves prouvées devant l'Arabie Saoudite. La méfiance du dessinateur se comprend donc aisément, d'autant que la longue série d'interventions orchestrées par les États-Unis pour changer à leur guise les régimes et les dirigeants de leur arrière-cour méridionale est encore bien présente dans les mémoires. On ne prête qu'aux riches, et si Donald Trump ne s'apprécie pas sous les traits d'un charognard, il ne peut s'en prendre qu'à ses prédécesseurs, qui depuis Eisenhower jusqu'à George Bush fils ont toujours trouvé que pétrole et socialisme formaient une cible de choix. Le régime chaviste sait bien qu'il rappelle la connivence de Washington et des mutins lors de la tentative du coup d'État de 2002. Mais c'est une mémoire plus lointaine, plus tragique aussi que convoque le dessin de Rappé. Le vautour est un condor et sur Twitter hier, lorsqu'il a publié son dessin, il a écrit cette légende, je traduis directement, « Une opération condor avec une paille, point d'interrogation ». Le scénario vénézuélien lui apparaît comme un retour de l'opération condor, nom de code de la véritable guerre anticommuniste menée conjointement par les services de sécurité du continent durant toutes les années 70-80, dont il faut rappeler que le nombre de victimes, assassinées, emprisonnées ou disparues, est estimé à 485 000 personnes au minimum, et dont il faut rappeler aussi qu'elle a bénéficié, on le sait depuis l'ouverture des archives, de l'appui technique de la CIA et du soutien tacite des autorités américaines. La comparaison semble excessive, presque provocante. Même si les précédents sont là, il est difficile de penser que la Maison Blanche est aujourd'hui directement à la manœuvre, alors même que les États-Unis sont devenus le premier producteur de pétrole au monde et que la production vénézuélienne est à son plus bas niveau depuis 30 ans. Finalement, ce que les dessins de Rappé révèlent le mieux, ce sont les traces indélébiles, les traumatismes laissés dans les mémoires par la violence des oppositions et des clivages politiques, et par les manipulations des États-Unis même 30 ans après la guerre froide. Avec un tel passif, l'apaisement paraît peu probable.
Merci beaucoup Marguerite Caton pour ce dessin qu'on met tout de suite évidemment sur le fil Twitter, sur le compte de l'émission. Et c'est là où je me tourne vers vous François-Xavier Freland. Vous voyez, je tiens mes engagements. On reparle maintenant tout de suite du pétrole. Cette hypothèse donc qu'on évoquait tout à l'heure d'une ingérence américaine et de cette idée que effectivement on aurait le vautour prédateur Trump qui voudrait mettre la main sur le pétrole vénézuélien.
Il faut savoir quand même que les États-Unis sont les premiers acheteurs de ce pétrole vénézuélien à bon prix. Donc je vois pas en quoi ils auraient tout intérêt à ce que les règles changent. Ils sont très contents avec Maduro. Ils ont un pétrole à bon prix et en masse. Donc ils ont pas de souci avec ça. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une comparaison avec Allende. Allende est un grand démocrate, Maduro a prouvé le contraire. Donc à un moment, il faut aussi savoir partager. Ce dessinateur n'est peut-être pas au courant de l'histoire ou ne connaît pas bien l'histoire de son propre continent, mais on peut être allendiste et anti-maduriste, c'est mon cas d'ailleurs. Donc voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Et ensuite, un tel dessin et une telle caricature des États-Unis, évidemment, rend service à qui ? Rend service à un néo-dictateur qui s'appelle Maduro. Donc à un moment, moi je suis très très sceptique avec ce genre de caricature typiquement, je dirais, d'une gauche écervelée, qu'on retrouve d'ailleurs parfois en France, avec évidemment cette espèce d'anti-américanisme primaire, je trouve même stupide, et qui fait qu'à chaque fois on retombe dans des caricatures. Après, ça n'empêche pas que Trump ait cette politique impérialiste, sauf que quand même, il a démontré en Syrie qu'il voulait plus d'intervention dans le monde, et qu'il voulait même peut-être se retirer de l'OTAN. Donc on n'est pas vraiment dans cette logique-là.
Paula Vasquez, est-ce que la prédation américaine et ce désir réel ou fantasmé de mettre la main sur le pétrole vénézuélien suffit à expliquer le désastre économique dans lequel est le pays aujourd'hui? On l'a décrit un peu tout à l'heure.
Non, pas du tout, surtout parce qu'il y a eu des transnationales nord-américaines jusqu'à il y a très peu au Venezuela qui opèrent dans le pétrole, comme il y a Rosneft, Eni et Total. Donc le pétrole, c'est pas une politique des pays, c'est une question des politiques des compagnies transnationales du pétrole. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que les grandes réserves vénézuéliennes, c'est du pétrole lourd qui coûte certes moins cher que ces réserves de pétrole lourd du Canada, parce que les autres sont à moins 50 degrés et les vénézuéliennes sont même plus chaudes pour les traiter, ces pierres, parce que c'est des pierres. Et ça n'a pas été complètement exploité, donc c'est un pétrole difficile à raffiner, qui a besoin. Donc c'est tout ça, c'est pour vous dire que c'est beaucoup plus compliqué que vouloir prendre une ressource comme le pétrole, surtout parce que la caricature ne dit pas que les Chinois et que l'entreprise russe pétrolière ont pris, par exemple, d'énormes parts des marchés avec des conditions extrêmement favorables pour eux. Le Venezuela s'est endetté avec la Chine pendant 20 ans en fournissant un pétrole à un taux fixe. C'est énorme en échange de prêts financiers. Donc la dépendance, s'il y a un impérialisme pétrolier dans cette histoire, ça vient surtout de la Chine et de la Russie. Et par rapport à la situation de la population vénézuélienne, elle a à voir au plus grand système de corruption institutionnalisé, je pense, dans toute l'histoire de l'Amérique latine. C'est à voir pourquoi la corruption génère la pauvreté, parce qu'on a permis d'utiliser les réserves de la banque centrale vénézuélienne pour enlever les supports même de la monnaie. On a créé une hyperinflation parce que la crise d'aujourd'hui, c'est une crise qui a des responsables directs, parce qu'elle était parfaitement évitable. Et donc, cette manipulation, cette bicyclette financière...
Il faut expliquer les choses. Expliquer les choses justement, parce que c'est très important, parce que ça permet de comprendre le désastre économique dans lequel est le Venezuela aujourd'hui. Parce qu'il y a effectivement, à un moment, cette chute des prix du baril du pétrole, mais effectivement, il va y avoir vers 2014, et il va y avoir des décisions dues, en l'occurrence de Maduro, puisque Chavez était mort, qui vont plonger encore plus le pays dans la crise et créer cette hyperinflation. Vous nous expliquez en quelques mots ce qui se passe?
En gros, ce qui se passe, c'est que la monnaie vénézuélienne ne vaut absolument rien. Et surtout, il n'y a aucune perspective d'amélioration dans un futur même moyen. C'est-à-dire que pour vous régler un kilo de papaye, vous pouvez même pas la peser dans les supermarchés parce qu'elle va faire plus de 10 millions les kilos et les zéros d'une balance des supermarchés. Non, pas. Donc, c'est pour vous
dire
qu'on a...
Mais pourquoi Maduro fait marcher la planche à billets à ce moment-là? Il aurait pu l'éviter.
Mais c'est la manière aussi de faire fonctionner une économie qui favorise la corruption par l'échange, les taux d'échange préférentiels donnés à des entreprises importatrices, contrôlées ou supervisées par l'État, et aussi en notamment des militaires très très souvent, des entreprises souvent fantômes qui devraient importer les biens et les services dont les Vénézuéliens souffrent la pénurie extrême. Surtout, il faut, là on parlait du Yémen et c'est extrêmement intéressant parce que c'est comme si les Vénézuéliens vivaient exactement les mêmes conséquences d'une guerre de cette magnitude. C'est la même chose, les questions des gens qui marchent, la diaspora vénézuélienne, la fuite du pays vénézuélien.
C'est plus de 2 millions de Vénézuéliens qui sont partis.
Mais ça s'est fait à pied. Ils marchent à pied vers la Colombie, vers l'Équateur et le Pérou. Et il n'y a pas de camp des réfugiés. Ils vont où ces gens-là? Là, il faut quand même dire un mot de la grandeur de la Colombie et l'Équateur, de ces populations qui accueillent des millions de Vénézuéliens. Quand on passe à l'Europe et ce qui se passe avec les migrants, la Colombie reçoit 2000 Vénézuéliens par jour dans ses ponts frontaliers, sans camp des réfugiés et sans une aide internationale, sauf de quelques organisations humanitaires. Donc c'est énorme, c'est pour ça que les pays voisins sont les principaux intéressés de trouver une issue à la crise.
François-Xavier Frelon.
Le drame du Venezuela, et pourquoi on en arrive là, c'est que pendant très longtemps, tout le monde s'en fichait. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que vous avez 5 millions de gens qui sont dans les... Voilà, 3 millions on va dire, qui sont sur les routes, mais on va vous parler de conflits où il y en a quelques milliers. Mais le Venezuela, c'est réel. C'est des millions, c'est sans doute même aujourd'hui le plus grand exode humanitaire recensé par toutes les organisations non gouvernementales. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un pays dirigé soi-disant par un politicien de gauche qui n'est plus du tout de la gauche. Et on est dans du populisme pur et dur. En plus, là-dedans, et vous avez des dissidents très forts. Moi, j'en ai rencontré dans mon film Luisa Ortega Díaz, ancienne procureure générale nommée par Chavez, qui s'est enfuie de manière rocambolesque, qui vit aujourd'hui en Colombie. Elle dénonce un narco-État. C'est pas moi qui le dis. Elle le dit. Elle a les preuves. Elle dénonce un système répressif. Pour elle, ce n'est plus une démocratie. Cette femme est chaviste. Bon, donc il n'y a pas que des gens d'extrême droite, comme on l'entend parfois sur les antennes. Non, ce sont des gens même de gauche qui critiquent Maduro. Il y en a de plus en plus. Donc à un moment, il faut quand même le rappeler. Et c'est vrai que en plus, malheureusement pour le Venezuela, on est dans une époque de non-interventionnisme. Donc ça ne va pas les aider, parce que c'est sûr qu'il n'y aura certainement pas une intervention militaire qui va aller se risquer au Venezuela aujourd'hui, à moins vraiment d'un tremblement de terre, à moins peut-être même, j'aurais envie de dire, d'une entente entre deux blocs, le retour des blocs, c'est-à-dire, j'avais envie de dire, le bloc russe et le bloc américain. Vous vous occupez de l'Ukraine, nous nous occupons du Venezuela, mais tout ça est un scénario totalement fictif. Donc, dans la réalité, les Vénézuéliens vont se débrouiller tout seuls, avec peut-être cet espoir de médiation menée par des chefs d'État latino-américains. Je crois que c'est la meilleure solution.
Paula Vasquez, c'est le mot de la fin. On arrive au terme de l'émission.
Peut-être justement songer à une solution pacifique pour une population qui est exsangue. C'est une crise assez inimaginable de... des déclassements, d'appauvrissement du jour au lendemain. Les 3 mois passés au Venezuela, que j'ai passé au Venezuela l'année dernière, c'est l'une des situations les plus dures que je pense qu'aucun pays de l'Amérique latine ait vécu. C'est pour ça qu'il faut être très responsable par rapport aux comparaisons. Avec quoi on compare ce qui se passe maintenant au Venezuela? C'est très difficile parce qu'il n'y a pas de précédent dans l'histoire latino-américaine. Quand on pense que les migrants qui vont aux États-Unis, cette caravane, c'est quoi, 35 000 personnes? Voilà, là, on parle des millions de Vénézuéliens qui sont partout,
sont sur les migrants,
surtout des gens très pauvres qui sont partout en Amérique latine en ce moment.
C'est une honte.
Sirvas en ayuno y mantada en sereno. Bautismal en lluvia y sol volví. Loco como el buey o risueño, empalagando desde el seño. Propiedad oculta de la
Merci beaucoup à nos deux invités. Paula Vasquez, un grand merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chargée de recherche au CNRS, auteur notamment de Le Chavisme, un militarisme compassionnel et en préparation Venezuela, pays hors service. Ça sera chez Bûcher Castel au mois de mai prochain. François-Xavier Frelon, merci également à vous. Je rappellerai vous concernant Qui veut la peau d'Hugo Chavez, point d'interrogation, c'était aux éditions du Cherche Midi. Et plus récemment, les résistants, le combat des exilés vénézuéliens, on en parlait à l'instant, qui avait été diffusé et coproduit par Public Sénat et qu'on peut revoir encore sur le site de Public Sénat. Merci beaucoup à tous. Marc Sémo, merci. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre nouvelle table ronde. 11h53.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous avez commencé hier à nous résumer un livre, La mort des démocraties.
Oui, s'inspirant d'un ouvrage publié il y a 40 ans par leur prédécesseur Juan Linz, Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, ses auteurs, ont établi quatre catégories de signaux d'alerte qui permettent de voir venir de loin les aspirants autocrates, ceux qui s'apprêtent à miner une démocratie qui les a élus. On doit s'inquiéter, disent-ils, lorsqu'un politicien, rejette en acte ou en parole les règles du jeu démocratique. Par exemple, s'il refuse le verdict des urnes lorsque celui-ci ne lui est pas favorable. Ou s'il appelle à des manifestations, voire à des insurrections visant à renverser le gouvernement légal. Deux, s'il dénie leur légitimité à ses opposants. Par exemple, s'il traite ses adversaires politiques de criminels ou qu'il prétend qu'ils constituent une menace pour la sécurité nationale. Trois, s'il tolère ou encourage la violence politique. 4. Si, une fois élu, il affiche une propension à limiter les libertés civiques de l'opposition et celles des médias. Alors, ce qui est formidable dans ce livre, c'est qu'il s'appuie sur l'analyse d'exemples concrets, tous pris dans l'actualité récente. Le Venezuela, vous venez d'en parler, le Pérou, la Turquie, la Russie, avant de mettre en garde les Américains sur les risques que Donald Trump fait courir à la démocratie aux États-Unis même. Subvertir les institutions de la démocratie une fois qu'on s'est emparé du pouvoir par des élections régulières, ça prend du temps, mais c'est à la portée de n'importe quel aspirant dictateur. Contrairement à ce que l'on croit souvent, les institutions, aussi solides et prévoyantes qu'elles paraissent, ne garantissent nulle part le lent passage de la démocratie authentique à l'autocratie. Ces nouveaux régimes, qu'on qualifie souvent de démocraties illibérales ou de démocratures en fonction du degré de corruption qu'ils ont infligé à la démocratie elle-même, se caractérisent par plusieurs traits. Et Levitsky et Ziblatt se servent d'une métaphore sportive. Au football, il y a des règles et des arbitres. Les autocrates en puissance corrompent les arbitres ou les chassent du terrain. Ils mettent sur la touche les meilleurs joueurs de l'équipe adverse. À la fin, ils réécrivent carrément les règles du jeu en fonction des avantages dont dispose leur équipe. Alors, oui, des matchs ont encore lieu, mais ils sont complètement truqués. Les démocratures, de la même façon, feignent le plus souvent de se soumettre au suffrage des électeurs, mais dans des élections où ils n'ont même plus besoin de bourrer les urnes.
Alors commençons, Brice, par les arbitres. Qui sont-ils ?
D'abord la justice, et en premier lieu, évidemment, les cours constitutionnelles. Pour les autocrates, c'est une gêne, une entrave, qu'il s'agira de transformer en opportunité. Le gouvernement en prend le contrôle en refusant les dernières nominations, comme il l'a fait en Pologne, ou en augmentant le nombre des juges de la Cour constitutionnelle, ou alors en faisant voter des lois restreignant les compétences de ses cours. La justice elle-même est mise au pas par des nominations politiques. Et les juges sont alors utilisés pour persécuter les opposants. Le fisc, lui, est systématiquement mis sur la piste des hommes d'affaires qui osent appuyer les médias d'opposition. Poutine, un expert. En juillet 2000, quelques mois après son accession au pouvoir, il réunit les 21 businessmen les plus riches du pays. Et il leur tient ce langage. « Je n'ai rien contre vous. Je vous laisserai continuer à vous enrichir à condition que vous ne vous mêliez pas de politique. » Boris Berezovsky était l'un d'entre eux. Propriétaire d'une chaîne de télévision, ORT, celle-ci se montra critique envers le gouvernement. Aussitôt, l'oligarque fut accusé de fraude fiscale et arrêté. Il abandonna sa télévision à un proche de Poutine et puis alors fuir à l'étranger. Même scénario pour le fameux libéral Mikhail Khodorkovsky qui finançait le parti Yabloko, en prison en Sibérie pour des années. Erdogan a fait exactement la même chose en Turquie en faisant fermer systématiquement les télévisions et les journaux qui osaient le critiquer. Autre moyen de truquer le match, la corruption des journalistes. Ceux qui se montrent favorables au régime reçoivent non seulement des pots de vin, mais des promotions, des médailles, des sinécures, et les autres écopent de contrôles fiscaux, d'embarras administratifs de toutes sortes quand ils ne se font pas carrément tabasser ou tuer. Une fois les opposants principaux, médias et acteurs économiques marginalisés ou achetés, l'opposition se dégonfle. Le pouvoir l'emporte sans avoir besoin d'enfreindre les règles. C'est ce qu'écrivent Levitsky et Ziblatt dans leur livre. Mais on peut aller plus loin, comme l'a fait notamment le parti UMNO en Malaisie. C'est redécouper les circonscriptions de manière à obtenir des majorités certes courtes mais suffisantes dans la plupart d'entre elles. On en laisse à l'opposition un nombre limité, mais là où elle est ultra-majoritaire. Orban en a fait de même en Hongrie, Ainsi s'explique qu'en 2014, son parti, le Fidesz, qui était passé de 53 à 44% des suffrages, a pu conserver les deux tiers de ses sièges au Parlement, majorité qualifiée dont il a besoin afin de réécrire une fois encore la Constitution. Garder la main sur les règles du jeu, voilà en effet l'obsession des autocrates.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.